Qu'est-ce qu'on déguste ? Bonjour. Émission spéciale, qu'est-ce qu'on déguste, puisque toute l'équipe s'est déplacée à Roques-sur-Garonne. Nous sommes au centre commercial de Roques-sur-Garonne, mais alors vous vous doutez bien qu'on n'est pas au rayon Kleenex, on se trouve dans la cave du centre Leclerc de Roques-sur-Garonne, une cave tout à fait particulière qui va nous être présentée ce soir par Nicolas Bobzinski qui nous accueille dans sa cave. Bonjour,
bonjour
Nicolas.
Bonjour.
Merci de nous recevoir.
On l'appelle Bob entre nous.
Oui, alors ce sera Bob.
Ça sera Bob.
Ça sera Bob, ça marche. On fera la connaissance également de Pascal Mouls, qui est restaurateur. Bonjour.
Oui, restaurateur, midi 5. Mais...
À midi 5 et pas à midi moins le quart.
Oui, midi 5, midi 5, ça suffit.
Voilà, midi 5, c'est le nom de votre restaurant qui est ici dans la galerie
marchande. C'est plus une brasserie qu'un restaurant.
D'accord. Et c'est à vous que l'on doit tous les mets qui sont posés sur ce comptoir, puisqu'on se trouve en fait au comptoir de dégustation de la cave de Roques-sur-Garonne. Alors, il y a Gaël Stenbach, salut Gaël.
Bonsoir.
Spécialiste bande dessinée, voilà. Meubus est mort.
Oui, bah oui, je vais me charger de casser un petit peu l'ambiance, puisque je ne vais pas pouvoir m'empêcher de parler de ça, puisque c'était un grand artiste qui nous a quittés, et c'est aussi un petit peu lui qui m'avait donné l'envie d'être libraire. Et... Mais on essaiera surtout de parler des bons moments. Voilà.
Georges Bonfils, tous les jazzeux sont morts, les bons.
Il en reste quelques-uns parce qu'il y a de nouvelles générations justement. Aujourd'hui, j'ai choisi un pianiste bon qui est plus jeune. Il est né en 1962. C'est un pianiste catalan aveugle. Il y a déjà eu un pianiste catalan qui s'appelait Tété Montoliu. Et maintenant, c'est Ignès Terrassa.
Bon. Voilà. Ok. Et Pascal Olivier.
Oui, bonsoir à tous. Eh bien, on va parler de plein de choses, en fait, de choses que je n'arrive pas à dire dans les émissions, que je n'ai pas pu dire dans les émissions précédentes.
Voilà, il paraît que tu
notamment
recycles.
La cuisson.
C'est du recyclage.
J'ai du recyclage, mais surtout la cuisson du poulet parce que ça m'a été demandé.
Eh ben voilà. C'est qu'est-ce qu'on déguste et ça démarre comme ça. Alors normalement, trinque de vin.
Ah oui.
Alors c'est.
Devant ton journal local, tu t'indignes, tu discutes de l'actualité. Le monde tu refais de tous ces gens méchants qui dirigent, te gouvernent, te rendent mécontent le matin au lever. Mais il faudrait, alors y'a qu'à, mais il faut qu'on voit. Et ils ont qu'à, si vous voulez, oui de vrai, moi leur place je ferai. Comptoir au balai, tu penses à l'inviter. Arrive une danse, tu fais que regarder. Ça fait plusieurs semaines, tu voudrais la brancher. Mais quand vient le moment, tu dis comment je fais. Mais il faudrait, alors y'a qu'à, mais il faut qu'on. Et ils ont qu'à, si vous voulez, oui de vrai, moi le place je ferai. Devant ton écran affalé, tout résigné tu penses. L'école et la santé se font escagasser. Ça fait bien trop longtemps, tu voudrais que ça change. Mais quand vient le moment, tu dis pourquoi j'irai voter. Mais il faudrait, alors y'a qu'à, mais il faut qu'on. Et ils ont
qu'à, en fait,
si vous voulez, oui de vrai. Moi, leur place, je ferai.
Regardez une petite logique, on va partir de la gauche. Donc, vous avez quatre verts. Le premier, le plus à gauche, le blanc. Ensuite, tu auras le premier rouge qui viendra juste à droite. Comme ça, ça évite. Pour rouge et blanc, je pense que ça va aller, on va y arriver.
Et le premier blanc qu'on est en train de boire,
alors,
c'est quoi?
Le premier blanc qu'on est en train de boire, c'est un coteau du Languedoc. C'est un pic Saint-Loup dans l'appellation Coteau du Languedoc, pardon. C'est le domaine de Cazeneuve qui appartient à André Lénard. On se situe au vingtaine de kilomètres au-dessus de Montpellier. Donc, c'est un millésime de 2010, très récent, c'est quasiment le dernier, puisque le 2011 va arriver d'ici 5-6 mois. On est sur un cépage un peu particulier, on va en parler un petit peu après, avec une composante un peu rhodanienne, de Roussanne, un peu de Marsanne, du Roll, et des cépages un peu assez atypiques qu'on trouve plutôt sur la partie est de France.
Oh Alors voilà, si vous avez raté le tout début de cette émission, c'est un Qu'est-ce qu'on déguste depuis la cave de Roques-sur-Garonne, la cave du centre Leclerc. Et on est accueilli donc par Nicolas Bobzinski, dit Bob. Alors, présentation générale, s'il vous plaît, Bob. Cette cave qui est tout à fait particulière, dans laquelle on trouve des grands crus, certains hors de prix et puis d'autres tout à fait abordables. Elle est née à quel moment et comment est né ce projet de cette cave?
Alors, c'est né il y a très longtemps. En fait, pour situer un petit peu, le magasin date de, a été reconstruit en 1995. Et puis en 2009, donc, la cave est devenue un peu étriquée. On avait acheté beaucoup de grands crus, puisqu'on est, on en parlera un peu de notre système d'achat. Ah.
Bon, le magasin, quand vous dites le magasin, c'est le magasin Centre Leclerc.
Le Centre Leclerc, qui est un peu particulier, qui est à l'étage.
C'est immense. Hein,
absolument, c'est un magasin qui fait plus de 15 000 mètres carrés avec 100 boutiques. Donc, au fur et à mesure des années, un peu agrandi. Et on s'est trouvé dans le besoin un peu de changer notre cave qui devenait un peu obsolète. Et puis l'idée est venue, puisqu'on avait un magasin à l'étage, de faire une cave. Mais du coup, la cave, on y descend. Et donc, bon, avec l'envie et la passion qu'avait notre PDG du vin, on s'est lancé dans un projet un peu pharaonique.
Voilà, alors en fait, deux caves, il y a deux niveaux de caves.
Absolument.
Il y a la cave qu'on trouve dans le magasin, dans le supermarché.
Traditionnelle, où on peut trouver des produits de consommation courante, des vins qui vont des vins de table, on va dire, jusqu'à des vins de pays et des AOC sur la partie murale de la cave. Et ensuite, l'ascenseur qui nous permet de descendre dans ce qu'on appelle les crins, où là, on a, on va dire, une forte majorité de Bordeaux, puisqu'on est quand même très spécialisé dans les grands crus classés de Bordeaux. Et petit à petit, avec les prix qui augmentent, on est venu à proposer des Alsaces, des Languedoc, des choses un peu différentes, se tournant vers une clientèle justement qui n'était pas automatiquement intéressée par l'achat de grands vins.
Alors vous parlez d'écrin et c'est vrai que ça donne cette impression, c'est-à-dire quand on est là-haut, au-dessus dans le magasin, quand on passe au niveau de la cave du supermarché, il y a cette espèce de petite pyramide qui ressemble à celle du Louvre, mais en vachement plus petit quand même,
Oui,
en n'exagérons rien. Et on voit en dessous, sous nos pieds.
La magie.
La magie de cette cave.
C'était l'idée, avec au-dessous une dizaine de vitrines un peu, où on représente les vins qui restent magiques, même pour les gens qui ne connaissent pas très bien, on connaît Petrus, on connaît Romane Conti, donc c'est un peu l'idée, et puis de décaler avec des vins qui sont beaucoup moins connus, tout aussi grands, on ne sait pas. Voilà, c'est un peu de jouer un peu le côté magique, de sortir de Bordeaux, c'est-à-dire qu'on sait qu'à Bordeaux, on peut trouver des grands châteaux, c'était un peu d'amener les caves qu'on voit à Bordeaux, les amener à Toulouse, à Roques.
Alors on est drôlement bien accueillis d'ailleurs, parce qu'il y a une allée un peu comme au Festival de Cannes, une allée de bouteilles comme ça.
Il n'y a pas de mannequin, les gens vont venir sinon.
Et donc on a notamment un Romane Conti de 20 000 euros.
C'est un clin d'œil parce que dans les années 70, un magnum, bien sûr, quand même, pour ceux qui vont venir. 71, Patrick, c'est ça? Un magnum. Bon, alors on est un peu décalé parce qu'on rentre dans des millésimes un peu anciens, mais bon, on vend, je ne veux pas dire très souvent, mais des millésimes plus récents, 2006, 2008, donc voilà. Bon, plus difficile de s'en procurer que de. Effectivement, aujourd'hui, c'est un peu ça. Ouais.
Alors, vous vous êtes tourné vers Patrick Roquefeuille pour avoir. Une certitude de ce que vous venez de dire. Patrick Roquefeuille, c'est le caviste.
C'est la Bible, c'est le druide. La sagesse.
Et on entendra sans doute de temps en temps aussi le prénom de Delphine apparaître dans cette émission. C'est la sommelière de cette cave, Delphine Lamartre.
Il y a deux ans.
Voilà. L'idée quand même au tout début de cette cave, c'est l'idée d'un passionné qui est le patron du Leclerc. Comment s'appelle-t-il?
Pascal Pirodeau.
Pascal,
qui est un passionné de vin qui, à travers ses activités de PDG du magasin, avait une activité qui est liée au magasin. Il doit participer au groupement Leclerc et il a choisi, il est bien tombé, j'aurais pu tomber plus mal, sur le vin. Voilà. Donc il a été pendant plus de 16 ans. Aujourd'hui, il a pris la responsabilité de la centrale d'achat, qui est la Socamil, qui regroupe les magasins, 35 magasins qui représentent la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et il était responsable des vins, d'où cette passion. Et puis c'est venu, ça a grandi. Et puis voilà, se faire plaisir, quoi.
Et vous-même aussi passionné de vin, quand même.
Aussi, c'est un peu aidé. Le problème, c'est qu'il y en a pas un qui fait en sorte que ça avance pas. C'est qu'on est tous un peu. C'est toujours plus facile de travailler avec quelqu'un qui met les moyens, qui se fait plaisir, qui va au bout de ses idées. C'est quand même. Du bonheur de travailler ici, quoi. Dans cette période, c'est.
Alors, il y a pas si longtemps que ça, un fonds de 5 millions d'euros.
Oh, ça baisse, ça baisse. Je ne sais pas si ça faudrait. On prendra le podcast pour le passer au directeur, s'il sera content. Il y en a toujours trop, hein, pour le directeur, pas assez pour le patron, ouais. On ne sait jamais, voilà. Mais bon, on est content de certains stocks, un peu moins d'autres. Mais voilà, on baisse un petit peu, mais on essaie d'avoir, mais après, c'est la durée de vie d'une bouteille, puisqu'on achète un primeur, on en vend un petit peu un primeur, on en vend dans les années un peu récentes, parce que c'est ce qui intéresse les gens, et après, l'intérêt, c'est d'en garder pour une dizaine d'années. On est encore content d'avoir des 88, des 82, des... Ben, ça paraît très très vieux, et pourtant, c'est des vins qui ont à peine une vingtaine d'années, mais bon, on commence à manquer.
Merci de nous accueillir ici d'abord. Et
grand merci, parce que vraiment, c'est royal. Hein.
Est-ce que, très bon, classe. Vous irez voir sur casquondéguste.com et sur cfmradio.fr, on va vous mettre une foultitude de photos, parce que c'est d'abord autour de ce bar à dégustation, là on est très bien reçus. Et vous avez choisi de nous présenter Pascal Mouls.
Alors Pascal Mouls, oui, Pascal Mouls, c'est une rencontre, il y a une petite dizaine, 10-12 ans que j'ai rencontré, qui était propriétaire d'un restaurant au Poilon. Oui, était très jeune à l'époque, beaucoup plus maigre. On n'est pas, il y a photo s'il vous plaît. Et donc, il était restaurateur qui a acheté donc le Poilon en 1992.
Le Poilon, c'était un restaurant.
Un restaurant à La Barthe-sur-Lèze, oui.
Qui très bon, toujours, très bon restaurant à La Barthe-sur-Lèze, là, et qu'il a revendu
il y a une grosse année.
Une grosse année pour il voulait arrêter la restauration et puis. Pascal Perraudot, qui a besoin d'une cantine. Donc
on a fait une brasserie ici.
Une brasserie, voilà.
Le midi 5.
Le midi 5, oui. C'est ça, ah. Oui.
Alors, mais dites-nous juste, je vous cuisinerai après. Hein.
Oui, bien
ça
sûr.
Ça change comme ça, un oui, peu, que ce soit les cuistots qui soient cuisinés. Dites-nous juste ce qu'on déguste là.
Alors, on essaie de préparer quelque chose de printemps, parce qu'il fait, vu le soleil qu'il fait aujourd'hui, c'était de l'époque. Donc, on a fait une crème de petits pois, aromatisée... À la menthe, servi avec des petites crevettes pour le craquant. Et c'est puis, frais, c'est glacé.
Et puis des petits radis aussi.
Oui, les radis, c'est en entrée, c'est sympa, avec un petit peu de sel, gros sel, du Guérande.
Et ben voilà, on se met à déguster ça. C'est plutôt... Ben moi j'attaque, hein. On fait comme
c'est joli, c'est très
bon. Il m'a piqué ma cuillère, il m'a piqué ma cuillère.
J'espère,
pas
oui.
Ah, pas du tout, il m'a piqué ma cuillère.
Et moi directeur.
Mais, pas de cuillère,
il a piqué la cuillère.
Je peux rien faire. Ça donne envie d'être en été, ça.
Oui, c'est l'été, oui. Vu la chaleur, c'est vrai que c'est agréable.
Georges, t'endors pas non plus là sur le petit pois. Ça a pas du tout.
C'était le moment. Ouais. Donc j'ai choisi aujourd'hui un pianiste catalan. Il y a eu deux pianistes catalans importants, c'était Montoliu, puis là ce pianiste qui est plus jeune, il s'appelle Ignasi Terrazza. Bon, il était pianiste classique et comme Tété Montoliu, il a eu des problèmes oculaires et donc il a perdu la vue à l'âge de 9 ans. Et les deux pianistes catalans importants étaient aveugles. Bon, ses principales influences, c'était Oscar Peterson, Ahmad Jamal, Michael Tyner et bien sûr Tété Montoliu. Bon, il a joué avec Stacy Kent, quand même, Lavelle, Frank West, beaucoup de musiciens de passage en Espagne. Et maintenant, il commence à être connu, faire des tournées mondiales. Là, le disque que j'ai choisi, c'est un enregistrement qui a été fait au Living Room à Bangkok. Donc, c'était une tournée asiatique, avec à la contrebasse Pierre Boussaguet et Esteve P. Drum, un catalan aussi qui est à la batterie. Et là, le morceau, le titre est catalan, c'est Canzone numéro 6.
Oh, la chanson numéro 6, quoi.
Il va falloir faire des
cours. Oh, bravo.
Oui, c'est les chansons. Thank you.
ça que tu m'as dit Cazeneuve que je pensais que tu allais mettre.
Je fais cuire les petits pois. Bon, ce sont des petits pois qui viennent d'Espagne. Et là, les petits pois frais que l'on a ici, il faudra attendre quand même un petit peu. Donc, on fait cuire les petits pois avec un petit peu de beurre, de l'eau, et ensuite crème avec de la crème fraîche. On le mixe, on le laisse bien refroidir. Et ensuite, j'ai rajouté une espuma à la menthe.
C'est quoi l'espuma ?
L'espuma, c'est de la crème montée...
Comme la chantilly.
Ah oui, de la chantilly, oui. Voilà. Sacrément.
Aussi ou pas ?
Ah non, non.
Ah non.
On ne peut pas faire des produits frais comme ça. Rien que pour faire les petits pois, un cajou de petits pois, il faut une heure.
Et surtout, il faut les écosser.
Mais c'est justement, il faut une heure pour les écosser.
Il faut commencer à midi pour donc, terminer à midi 5.
Non, oui. Ceux-là, ils sont espagnols, ils ne sont pas
écossais. Et là, ils sont espagnols, donc.
Alors.
Enregistrement du pianiste catalan Ignasi Terrazza Trio, qui était enregistrement fait à Bangkok en 2010, au mois d'octobre.
Alors pourquoi le midi 5 ? C'est quoi ce nom ?
Alors midi 5, au début, on devait monter un restaurant 5 fruits, 5 légumes.
Alors on avait dit, qu'il y a de la pub partout à la
télé. Ah, c'est la pub partout, la télé, oui. Et puis c'est certainement en plus l'avenir, puisque les gens font très attention à leur régime maintenant, à ce qu'ils mangent et tout. Donc on avait dit 5 fruits, 5 légumes. Et puis on s'est aperçu, on est allé voir à Bordeaux un petit peu, à Montpellier, les restaurants qui avaient 5 fruits, 5 légumes, les restaurants qui faisaient ça. Et on s'est aperçu que c'était trop tôt. Enfin, c'est trop tôt. On peut faire 30 couverts, mais on ne peut pas faire 200 couverts avec des gens qui viennent manger 5 fruits, 5 légumes. Il n'y a rien qu'à regarder Bob. Bob, si je lui sers 5 légumes, 5 fruits,
il faut 5 viandes avec.
Au moins avec l'entrecôte. Quoi.
C'est ça. Donc ensuite, on a décidé au dernier moment de changer la carte. Donc on a fait une carte brasserie, vraiment brasserie, avec en plus des fruits de mer. Les fruits de mer, on en vend vraiment pas mal. Et on a arrêté un petit peu, 5 fruits et légumes, mais en gardant quand même...
En gardant l'idée
oui. Un petit peu, en gardant des grosses salades, en gardant des produits quand même, le maximum, on essaye de faire le maximum de produits frais. De toute façon, tout ce qui est légumes, marché, fruits et légumes, c'est 100% frais. Hein.
C'est combien de couverts tous les jours au midi 5 hein?
Oh, tous les jours, à peu près une moyenne de 200 couverts jour. 200-220 couverts jour.
Et le plat le plus plébiscité à midi 5, qu'est-ce qu'on sert le plus?
Oh, il y a pas mal de plats que les gens aiment bien. Il y a le boudin maison, qu'on sert avec une petite confiture d'oignon. Ça, c'est sympa. Puis il y a les frites fraîches. Les gens adorent la frite. Alors, on est loin des 5 fruits et 5 légumes, là. Mais la frite, c'est vrai que rien n'est meilleur qu'une frite fraîche.
Et elle est fraîche.
Et elle est fraîche.
Elle est faite maison.
Oui. Ah oui, tous les matins.
Le plat du jour est un...
Le plat du jour, 11,90. Entrée plat. Servi en même temps. Comme ça, les gens qui n'ont que 10 minutes, un quart d'heure pour manger, les gens peuvent manger très rapidement. C'est ce qui fait peut-être aussi le succès de Midi 5 aujourd'hui.
Vous écoutez, qu'est-ce qu'on déguste ? Nous sommes à... Alors, normalement, ça s'appelle aère la cave. Mais vous m'entendrez pas beaucoup le dire, en fait, tout au long de cette émission, parce que c'est imprononçable dans une phrase. Hein. On est à la aère la cave. Enfin, c'était compliqué. On est à la bat cave de Batman. Non, non. On est donc à la cave de Roques-sur-Garonne, la cave du Leclerc de Roques-sur-Garonne. Une cave, on peut dire, assez unique en son genre. Est-ce qu'on trouve d'autres caves comme celle-ci ailleurs dans l'Hexagone, Bob?
Alors en France, non, puisqu'on a fait le tour. Non, pas en grande distribution. Alors on pourrait peut-être un peu avoir un particulier. Il y a des très beaux restaurants, mais où les caves sont un peu enfouies à Paris. Il y a des très très belles caves différentes. Mais dans ce style, dans cette ergonomie et avec, bon, d'ailleurs, quand même ce faste,
il faudrait peut-être la décrire.
Oui, c'est vrai que c'est un peu, voilà, imaginons que vous vous trouvez dans un magasin, une petite cave, on va dire, on a en haut un ascenseur, juste en face de celui-ci, une pyramide, donc, sécurisée, où on peut voir, donc, on se situe à peu près, je veux dire, à 5-6 mètres au-dessous du magasin. Donc, en fait, la cave se situe sur le parking, puisqu'on a un accès un peu particulier. On l'a ouvert il y a quelques mois, donc cette cave, vous arrivez en bas, vous la traversez à travers des petites vitrines. On a voulu un peu désacraliser le lieu et créer un peu une sorte de ce qu'on trouve à Hollywood, le Walk of Fame, c'est-à-dire de faire une petite grappe avec à l'intérieur, chaque grain représente la main, alors je dirais d'un vigneron ou de quelqu'un qui touche de près ou de loin au vin, en général des passionnés, des amis qu'a Pascal et que nous avons, donc pour un peu essayer de faire venir les gens, que ça ne reste pas qu'un musée, enfin on ne veut surtout pas, ouais, que ça reste un musée, ce n'est pas une cave, une réserve à vin, quoi, voilà. Et on l'a ouvert depuis 6 mois maintenant, sur l'extérieur. On l'ouvrait avant, puisqu'on a vu, on a bien évidemment Leclerc également, surtout Leclerc. On a une foire au vin, et on est assez réputé en France pour ça. Qu'on ouvre, qu'on agrandit autour de cette cave à l'extérieur. Et puis on s'est dit que c'était peut-être aussi un peu dommage, parce qu'il y a des gens encore et qui n'ont pas le réflexe de venir, ce côté un peu d'essayer d'être caviste, mais de venir dans un centre Leclerc, de faire la démarche, de se garer, de monter, de venir. Donc ça prend un peu de temps si vous avez bien évidemment qu'une bouteille à acheter. Donc.
Si on arrive par le parking, comme nous on l'a fait avec Aurélien, oui, pour installer le matériel aujourd'hui, on ne voit pas marqué Leclerc. C'est une volonté aussi, ça, finalement. Il n'y a pas marqué la cave de Leclerc, quoi.
On l'a voilà, sur les panneaux, on peut se douter, ouais, effectivement. Non, non, c'est pas automatiquement. Non, ça n'a pas été fait dans cet esprit. Bon, l'idée, c'était pas d'avoir aussi un gros
panneau. En plus, on retrouve pas. Parce que quand on va d'habitude dans un supermarché, Leclerc ou Auchan ou n'importe quoi, il y a une sorte de marketing visuel,
oui, bien sûr.
Et on le retrouve pas du tout, en fait.
L'idée, c'était d'avoir quelque chose d'intimiste, un peu de rester dans quelque chose d'un peu d'un cocon fermé. Alors c'est vrai que bon, j'adore Leclerc, hein, je veux dire. Mais bon, le gros logo bleu au milieu, ouais, ici, bon, on l'a, on a un site internet où c'est marqué dessus. Après, c'est pas, voilà.
Et puis c'est une autre clientèle qui recherchait.
Bien
aussi,
évidemment,
de toute
c'est aussi cette clientèle qu'on voulait, on va dire, c'est la clientèle la plus proche du centre-ville de Toulouse qui va faire la démarche. On a des très bons amis cavistes aussi qui font la démarche de venir chez nous voir et pas automatiquement, qui n'ont pas envie automatiquement de se trouver sur l'eau du parc. Oui, bah, voilà, c'est ça, et de faire des allées venues, d'aller aux caisses, d'attendre, d'avoir le même réflexe que quelqu'un qui fait des courses, quoi, automatiquement.
Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de boire?
Alors oui, on est déjà un petit peu passé. On avait commencé à servir le rouge pour l'aérer un petit peu. Donc là, on boit.
Trop tard.
Enfin, l'aérer, pour ceux qui n'ont pas déjà fait qu'ils l'ont.
On aère.
Donc on boit un Volnay Mitant. Donc on est en Côte de Beaune, un vin de chez Olivier Le Flève. Donc premier cru, les Mitants. Alors c'est un
Bourgogne.
Absolument. Très compliqué d'expliquer un peu la Bourgogne, puisque c'est des clos, des climats, des toutes petites parcelles. Elles ont, c'est-à-dire que voilà, sur une même appellation, il y en a, vous trouvez 5, 6, 10, des fois plus de propriétaires. Donc, ce qui fait le vin en Bourgogne, c'est avant tout le propriétaire qui met sa marque. C'est vraiment la marque de fabrique. Donc là, on est sur un Pinot Noir 100%, bien sûr. 2009, c'est plutôt récent. Très joli millésime en rouge. Et on est resté sur ce côté où on voulait un petit peu passer sur ce que va présenter Pascal après. Voilà, des vins un peu frais, un peu avant d'aller... De rentrer dans la cavalerie tout à l'heure.
Et oui, parce que je me suis dit, tiens, c'est quand même le Bordeaux, c'est du Bordeaux qui est parti cette cave, donc il va forcément y avoir un Bordeaux.
Il y aura du Bordeaux, mais c'est vrai qu'après, on n'est pas sectaire, et puis on veut s'ouvrir à ça, parce qu'on est quand même plus près, plus proche, de la première région, c'est presque le Cabardès, on est quand même plus près du Languedoc ici, et plutôt passionné par le Languedoc, avec des prix quand même plus intéressants. Après, c'est vrai qu'on en parlera un petit peu, la cave, elle est particulière, puisqu'elle est née de l'idée de de faire des primeurs. On achète depuis bientôt 12 ans tous les vins qui sont achetés. Je parlais en Bordeaux, bien sûr, un grand cru classé qui rentre dans le classement de Bordeaux. Tout est acheté en primeur, donc chaque année, assez régulièrement, à des périodes, on en parlera, pour faire cette cave avec un système où vous êtes chaque année obligé de racheter. Ben, une obligation, mais si vous voulez avoir accès à vos allocations, donc on a acheté depuis 12 ans maintenant toutes les références.
Ce n'est pas les allocations familiales, Pascal.
Du tout, celle-là.
C'est pas ça, c'est une sorte de contrat perpétuel.
C'est nous qui les versons, ces allocations, aux propriétaires bordelais.
Entre les propriétaires et les négociants, hein, c'est ça.
Et comme les prix on monte un petit peu et de plus en plus chaque année, on se retrouve à essayer de faire venir un peu. Il y avait une idée un peu au départ, c'était de dire on va pas proposer pour un peu segmenter les caves, pas de vin à plus de 40 euros en bas. Bon, on est parti, il fallait faire un critère de choix, c'était du blanc ou du rouge, pas de champagne, on a dit ça sera 40 euros. On s'est dit 40 euros, ça fait quand même, on fait un petit calcul en francs. Pour ceux qui sont nés avec des francs, ça commence à faire des bouteilles assez onéreuses. Donc on a changé un peu notre fusil d'épaule. On a aussi en haut des fois des vins un petit peu plus chers qui peuvent se situer à 80 euros. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur place ici, mais qui faire un choix. Mais on a essayé un peu de faire venir des Languedoc, on peut trouver des Côtes-du-Rhône, on a des Alsaces depuis peu de temps, des Champagnes un peu haut de gamme, des produits qu'on peut retrouver en haut et en bas. Et puis, on a des Bourgognes, on essaie un peu de s'étoffer, des vins étrangers, parce qu'on n'est pas non plus...
Combien de bouteilles aujourd'hui?
On arrive au bout. Alors, vous la mettez derrière l'oreille. Combien de bouteilles dans la cave aujourd'hui? Parce qu'on arrive au terme de la première demi-heure de cette émission et on se retrouve juste après ça. Ah, bon, on va les compter. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Alors, qu'est-ce qu'on déguste spécial? Puisque toute l'équipe s'est déplacée à Roques-sur-Garonne, on est donc en Haute-Garonne, dans la cave du Leclerc du grand centre commercial de Roques-sur-Garonne. C'est une cave qui est partie de l'idée d'un monsieur qui s'appelle Pascal Perraudeau, hein, c'est ça
C'est ça, absolument, c'est son nom.
Ah ben voilà, ça tombe bien parce qu'il est arrivé dans le courant de cette émission, Pascal Perraudeau. Vous êtes ici chez vous, monsieur. Est-ce que vous pourriez venir jusqu'au micro pour que nous fassions connaissance? Je vous présente autour de moi donc Pascal Olivier, Gaël Stenbach, Georges Bonfils, qui sont des coutumiers de l'émission Qu'est-ce qu'on déguste tous les vendredis sur CFM Radio et qui ont sans doute plein de questions comme moi à vous poser. C'est parce que vous êtes un passionné de vin que vous avez eu l'idée de cette cave au tout départ. Donc je dis d'abord que vous êtes le patron du Leclerc.
Hein. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, alors une passion, oui, depuis mon adolescence, on va dire. Passion qui s'est transformée en métier puisque... dans ma jeune carrière des centres Leclerc, vous savez que dans les centres Leclerc, les propriétaires des centres Leclerc doivent amener leur pierre à l'édifice. Et donc chaque propriétaire de magasin a un rôle d'acheteur au niveau de l'ensemble des centres Leclerc au niveau national. Donc moi, mon rôle a été d'être responsable national des vins. Donc ma passion, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est transformée en travail et c'est... Un magnifique travail.
Mais l'idée de cette cave qui est un peu surdimensionnée peut-être, ou je ne sais pas, enfin en tout cas par rapport à toutes celles qui existent dans des autres Leclerc en France, oui, surdimensionnée on va dire, c'est un coup de folie, une lubie
Lubie, oui et non. Nicolas Bobzinski a dû vous expliquer tout à l'heure notre stratégie d'achat en primeur depuis maintenant 1997, le premier millésime. Donc nous achetons en quantité assez importante depuis 1997 les Bordeaux principalement en primeur. On s'est retrouvé 10 ans après avec un stock assez important parce qu'on a toujours conservé une partie du vin. On en vendait une partie mais on en conservait une autre. Et puis au bout de 10 ans, on s'est dit avec Bob, on a plein de vins, c'est-à-dire en gros 70 000 bouteilles, je crois, qu'on avait à peu près, en stock, et incapable de les présenter à notre clientèle, puisque pas assez de place au niveau de l'hypermarché. Donc l'idée a germé à partir de ce moment-là, et d'où l'idée de faire ce petit trou dans l'hypermarché, et d'en faire avec un ascenseur, un caveau de dégustation où vous êtes maintenant. Voilà.
Et alors votre passion, elle va même plus loin que ça, puisque vous êtes vous-même... aujourd'hui, vigneron.
En quelque sorte, oui.
Bon, alors, le vigneron, c'est celui qui met un peu les bottes en caoutchouc et qui va dans la vigne.
Moi, je ne les mets pas quand même.
Voilà. Mais vous avez votre domaine.
Oui, tout à fait. Totavel, en Côte-du-Roussillon village, Donc là aussi, un petit pari d'amis, on va dire. Un petit pari d'ivrogne, quoi.
C'est bien, les paris d'ivrogne. C'est les meilleurs, les paris d'ivrogne.
Nous, ça nous plaît bien. Hein.
Oui, en tout cas, la cave, visuellement, est très, très réussie. Et si jamais, toutefois, à un moment, vous vous retrouvez dans la même situation que de cet excédent, moi, j'ai un très, très grand garage. Et j'ai mon adresse à Bob, et il n'y a pas de problème.
Tiens, parce qu'ici, on est, j'imagine, à une certaine température, mais le reste du temps, vous avez un endroit où conserver le vin, vous avez, je sais pas, un hangar, mais climatisé, genre cave à 12 degrés et tout ça.
Toutes les bouteilles sont ici.
Vraiment plus belles. Ouais. Non, c'est une réserve, après, tout simplement. Hein, posée, ouais. Même le sol, de l'autre côté, bien sûr, qui est à isotherme. À isotherme, entre 14 et 16 degrés toute l'année, qui est à quelques mètres
d'ici.
Disons,
c'est comme une chambre froide de produits frais, quoi.
Clôturé, grillagé,
avec des miradors. Température constante et hygrométrie contrôlée.
Et Patrick Dor, là.
Mais sans l'écrin.
Alors, oui, un petit peu de musique pour attaquer le plat suivant de Pascal Mouls, des asperges.
Un petit asperges peu vertes.
Ouais.
Et cuites naturellement, grande eau, salée, et ensuite rafraîchie au glaçon pour garder la chlorophylle, comme ça reste bien verte. Savaillon d'orange qui l'accompagne, et pour saler le tout, un petit peu de
du lard,
de lard,
bacon,
du
bacon,
ouais. De bacon, ouais. De bacon, ouais. Peut-être du bacon. Ouais, c'est Van Dresch.
Bon ben voilà, on va pas parler la bouche pleine, donc un petit peu de musique. Alors je vous propose d'écouter dans Qu'est-ce qu'on déguste ce soir Monira Michala. C'est un groupe qui nous vient du Tchad.
Alors, on a fait un petit un jeune de choses qu'on ne fait pas, c'est blanc, rouge, re-blanc derrière, c'est pas facile, mais ça supporte le vol nez, ça supporte le retour. Et Pascal nous a amené, Patrick a trouvé le tout dernier chardonnay, 100% chardonnay, donc est un Toques et Clochers, donc Limoux, appellation Limoux, le village de la Serpent, donc c'est donc préboisé. Et millésime 2010, donc là, c'est un vin qui a été mis en bouteille il y a quelques semaines, on va dire, quelques mois, grand maximum. Donc c'est, il y a beaucoup d'opulence, c'est très riche, beaucoup de fraîcheur, mais bon, ce côté, voilà, qu'on retrouve. Donc là, on se situe dans le, en avant-première, et on se situe dans le, ce qui se fait, bon, après, un peu, pour ceux qui connaissent un peu le Limoux avec la vente chaque année, des villages et des, oui, voilà, des réfections des toques. Donc là, on est dans le très très haut de gamme de ce qui se fait à Limoux, et on peut rivaliser avec, on va dire, les grands Bourgognes, je pense, sur, sur la, sur la dégustation.
Qu'est-ce qu'on déguste depuis la R la cave? Dans la cave de Roques-sur-Garonne. Dans la cave du Leclerc de Roques-sur-Garonne. Comment vous faites vos courses, entre guillemets, le, comment vous faites...
qui les fait les courses?
Le choix, la qui c'est... Qui c'est qui c'est qui va un petit peu déguster, chercher, fouiller, comment ça se passe? Est-ce alors, que c'est uniquement sur
des étiquettes
des, non, non. Pas, c'est pas ce que j'allais
est-ce
dire.
Est-ce que c'est des réunions d'ivrognes?
C'est sur des oui, grosses ça, réunions ça, ça, ou est-ce ça, que vous allez aussi à la propriété?
Ah, oui. Le, enfin, le plus souvent, c'est ouais, comme ça. Alors, il y a une règle, puisqu'on est quand même Bordeaux, on en a parlé au début. Chaque année, ça arrive bientôt, c'est le 2-3 avril prochain. La dégustation, enfin, le 2, 3, 4, mais enfin, ça se resserre sur deux jours. La dégustation à Bordeaux, organisée par l'Union des Grands Crus. Il y a plusieurs organisations, mais l'Union des Grands Crus de Bordeaux, qui représente quasiment tous les grands crus classés, que ce soit de Saint-Emilion de la rive droite ou ceux du Médoc de la rive gauche, organise pour les professionnels uniquement la dégustation du millésime, on va dire le dernier, le primeur, c'est-à-dire le millésime 2011, vendu en 2012 et qui sera livrable, on va dire, 2013-2014. Donc là, on va en deux jours, ceux qui le souhaitent, déguster, donc de façon, on peut visiter les châteaux, puisque un château dans chaque région reçoit.
Mais quand vous dites on, c'est qui?
Alors on, c'est Bob, nous, c'est Pascal Perraudeau, c'est Patrick.
Ah oui, oui, d'accord, c'est toute l'équipe.
Pascal, Patrick, on se dépasse, ça fait des années maintenant. On se donne une idée, je vois quand même pas facile, puisque le vin, on peut imaginer, même on est sûr, qu'il a été vinifié dans les mois de septembre, enfin vendangé, qu'il a fait commencer à faire sa vinification. Les malolactiques, enfin, le processus de vinification est en cours, mais se fait doucement. Le vin est en barrique et va être en barrique pour au moins encore plus de 14 mois supplémentaires. Donc le vin va évoluer, mais on a à peu près une idée précise par des grands dégustateurs, mais nous, se faire une idée de ce que sera le vin. Voilà, je ne vais pas dire qu'on ait, c'est une vérité vraie, mais on sait à peu près ce que ça peut donner. On a à peu près une idée de la météo, de ce qui, voilà,
de ce que va donne... faire, ce qui va devenir.
Absolument, tout simplement. Donc après, à nous, un mois après, puisque le vin ensuite est mis sur le marché, il y a une règle qui se fait à Bordeaux, le propriétaire vend à un bureau de courtage qui lui-même vend à des négociants et sous un système d'allocation. Nous, nous sommes allocataires depuis maintenant une quinzaine d'années, d'une quantité de vin par château.
Chacun, oui, vous avez une quantité précise. Si vous voulez trois bouteilles de plus, c'est pas possible.
Je peux pas, en général, c'est plutôt trois de moins, en général, de plus en plus. Ou alors nous-mêmes, on se fait du mal quand les prix, comme les dernières années, ça a été le cas, bon, ont explosé, on est obligé de suivre.
C'est comme dans l'immobilier, le vin, il y a eu une bulle du vin.
Ah, c'est une très grosse bulle, je crois.
Mais si vous suivez pas, vous avez plus rien l'année
absolument
d'après.
Absolument. Voilà, on perd notre allocation. Alors c'est reconductible tacitement, il n'y a pas de contrat. Après, c'est une parole qui est donné, on a une facture qu'on achète avec une caution bancaire, puisque le vin reste chez le propriétaire, va voyager, va passer de la barrique à la bouteille, peut subir des gros soucis. Donc on a une assurance qui nous permet de, puisque nous on les revend ces vins en primeur.
Et alors, vas-y.
Oui, ce que vous allez acheter ou ce que vous allez goûter maintenant, vous aurez les bouteilles
en 2014.
D'accord.
Voilà, faut attendre un petit peu, c'est un investissement.
Pascal Perraudeau disait que c'est les Chinois qui font la.
Les Chinois, on va dire l'Asie, mais les pays qui sont émergents en termes de pouvoir d'achat, on va dire un peu les Américains, enfin ça reste des grands dégustateurs, ils n'achètent que quand c'est très très bon, qu'il y a vraiment un intérêt. Bon, les Chinois, ils achètent ce qu'on.
Mais vous, vous achetez pour vendre. Donc, vous achetez aussi en connaissant le goût de votre clientèle. C'est quoi le goût de votre clientèle?
C'est surtout ce que. En fait, il y a le goût, mais il y a surtout ce que la clientèle est capable de mettre. Quoi. Voilà. C'est qu'à un moment, on voit vite. Oui, c'est très compliqué. Quoi. Donc, on rentre. Nous, on vend, en fait, pour une règle simple, on vend à la caisse de 6 bouteilles. On se pose la question aujourd'hui de voir si on va vendre à la bouteille, mais c'est quand même très compliqué, puisque quand ça arrive on livre la quasi moitié de ce qu'on, donc on a à peu près 800 clients, il y a 400 commandes qui sont livrées puisqu'on vend sur internet, donc les gens viennent de l'extérieur pour acheter. Bon, automatiquement, plus vous manipulez la caisse, plus vous sortez la bouteille, plus vous la livrez, plus il y a de chances que bon, le vin s'abîme. Donc on vend à la caisse de 6. Quand on vendait dans les années 2003 avec Patrick une caisse de 6, on prend de premiers grands crus aux alentours des 800, ou allez, on va dire, imaginons, on peut aller jusqu'à 900 euros la caisse de 6. Aujourd'hui, c'est une bouteille vaut 900 euros.
Bien sûr.
Donc à un moment, je ne connais pas grand monde qui a pu multiplier ses profits à ce point. C'est
bien compliqué. En fait, il y a un truc, c'est que quand je remonte la musique, comme ça, c'est parce que mon verre est vide. Alors, dans Qu'est-ce qu'on déguste, il y a toujours la chronique bande dessinée. C'est Gaël qui mène sa barque de ce côté-là. Il y a une triste actualité du côté de la bande dessinée.
Oui, voilà, pour cette fois-ci, ça sera plutôt une triste actualité puisque la bande dessinée et l'art en général déplorent cette semaine la disparition d'un grand artiste qui était Jean Giraud, qui œuvrait aussi sous le pseudonyme de Moebius. Donc il est notamment l'auteur de bandes dessinées de science-fiction comme Le Garage Hermétique, L'Incal ou Arzak, qui vont lui valoir une reconnaissance internationale, que ce soit dans le milieu des comics. Beaucoup d'auteurs américains et même japonais se reconnaissent de son influence. Et aussi, en 1975, avec Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druyet et Bernard Farkas, il va créer la fameuse maison d'édition Les Humanoïdes Associés pour pouvoir publier un journal métal hurlant. Alors je vais vous faire circuler une petite photo qui est d'époque, qui est plutôt rigolote, où on voit les quatre compères.
C'est vachement radiophonique, mais on la mettra sur le site.
Oui, voilà, c'est pour le mettre sur le site, mais c'est après pour mes collègues, pour savoir s'ils les reconnaissent. Publié Métal Hurlant. Et ce succès va le faire connaître même à l'étranger, puisque Jean Giraud, plutôt sous le pseudonyme de Moebius à l'époque, va être contacté par des cinéastes français et même américains pour participer à la pré-production de films de science-fiction dans les années 70. Il y a d'ailleurs eu un projet avec Jodorowsky pour un film inspiré de Dune, qui ne se fera pas pour une raison de production. Par contre, on lui doit quand même les décors d'Alien, ce qui n'est pas non plus n'importe quoi. Voilà, et ensuite, après, l'aventure hollywoodienne ne va pas s'arrêter là. Il fera aussi Tron, qui n'est pas non plus n'importe quoi.
Le premier, hein, pas le dernier qu'on a vu là.
Non, le tout premier. Il fera aussi tous les costumes et les décors de Willow, pour revenir à la science-fiction Abyss. Alors, aussi, un truc très amusant, c'est qu'on voit qu'il était vraiment très différencié dans son style, c'est qu'il a aussi participé au dessin animé Space Jam, qui mélangeait des basketteurs et des personnages de
bon
cartoon.
Un bon navet américain, oui.
Bah, pour ton âge, oui, mais mes filles, ça les a bien fait rigoler, par exemple.
Ouais.
Et il a aussi, et d'ailleurs il y a eu un petit conflit avec un autre dessinateur, Mézières, il a aussi participé au décor du Cinquième Élément. Et Mézières se revendiquait un petit peu des fameux taxis qu'on voit dans le taxi de Bruce Willis, parce que c'est vrai qu'on en voit dans sa série Valérian, de ces taxis. Et donc il y a eu un petit conflit à l'époque. Voilà. Alors ce que je déplore un petit peu par rapport à la mort de ce grand artiste, c'est qu'il y a eu une brève sur le journal de France 2 il y a deux jours, alors que quand même, du 1er mars 2004 au 13 avril 2005, il y a eu à l'hôtel de la Monnaie de Paris une exposition conjointe avec Miyazaki, qui est un autre grand auteur japonais, qui revendique les influences de Moebius. Il y a eu plus de 300 dessins qui ont été exposés. Voilà,
Fondation Cartier aussi.
Oui, la Fondation Cartier. En mai 2006, il y a un timbre qui a été émis. Et même, alors là c'est un truc plus rigolo, avec le magicien Gérard Majax, en février 2008, il va participer à la réalisation d'une nouvelle attraction au parc du Futuroscope. Voilà. Et pour revenir un petit peu à la petite anecdote, moi j'étais adolescent, un jour mon oncle m'a offert un album qui s'appelait Balade pour un cercueil, avant je lisais Astérix, Tintin, et j'ai découvert une autre bande dessinée, et je me suis dit un jour, quel que soit le moyen, j'en ferai mon métier, et je lui dois ça, et je suis très reconnaissant de l'avoir rencontré à un moment.
Combien il y a de BD de Moebius aujourd'hui ?
Oh, gire.
C'est assez indéfinissable parce que des Blueberry, il y en a déjà une trentaine. Ensuite, la série L'Incal avec Jodorowsky, enfin, des vrais, il y en a six. Après, il a une série qui s'appelle Inside Moebius, hein, qui est une espèce d'autobiographie où il y a beaucoup de recul sur lui-même, sur son
œuvre. Plus Arzac, toute la partie d'Arzac. Voilà, toute la partie plus, Arzac. N'oublions pas le Bandarfou aussi, qui a été ces grandes bandes dessinées.
Et qui était d'ailleurs, qui avait d'ailleurs été édité, donc il y avait eu un conflit chez Dargaud, et c'était aussi la vocation des humanoïdes associés de rééditer des vieilles bandes dessinées comme ça, mais qui sont restées un peu cultes.
Et il est mort comment ?
Un vieux cancer. Voilà.
Quel âge avait-il ce moment ?
Il avait 73 ans.
73 ans.
C'est bien, il a fait son temps. Oh, c'est pas suffisant. Ouais.
Mais non, mais en plus, il sera immortel, ce gars-là. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite. Donc, ce soir, pour ceux qui prendraient le train en marche, nous sommes avec Gaël, Georges, Pascal et votre serviteur, accueillis par Nicolas Bobzinski, alias Bob, Pascal Mouls, Patrick Roquefeuille, Delphine Lamartre et bien sûr Pascal Perraudeau. Nous nous trouvons à Roques-sur-Garonne, dans la cave du Leclerc de Roques-sur-Garonne. Alors, si vous voulez des infos sur cette cave, vous tapez dans Google R... plus loin, la cave. Et voilà, vous aurez non seulement le visuel de cette cave, mais aussi tous les vins qui y sont, puisque c'est un vrai site internet, une vraie cave en ligne aussi, hein, qui est attenante finalement à cette cave, hein, Bob.
Absolument. En même temps qu'on écoute la chronique, peut-être se mettre dessus, puisqu'il y a une visite virtuelle. Hein. On peut visiter la cave en partant de l'ascenseur.
On mettra le lien.
L'avancer et faire des panoramiques pour la visiter.
Voilà, vous ne nous voyez pas, parce que nous,
on essaiera de mettre en incrustation. Ouais.
Qu'est-ce qui fait le prix du vin aujourd'hui ? Les Chinois ? Le prix d'un vin, pas du vin d'une façon générale, mais le prix d'un vin. Je vois derrière, en face de moi, de l'autre côté du bar à dégustation, Pascal Perraudeau est assis, et derrière lui, il y a écrit les premiers grands crus classés, et là, il y a 5 vins, donc des grands crus de Bordeaux. Qui sont ces 5 vins et
on a mis le panneau, nous, hein, mais c'est pas nous qui avons décidé que ce soit les 5 plus grands, c'est en 1855. Il y a eu un classement qui a été fait, une grande dégustation, et qui aujourd'hui fait toujours foi, et qui a classé les vins du Médoc et du Haut-Médoc dans la rive gauche. D'accord. On ne parle pas des Pessac, on ne parle pas des Sauternes, on parle des Haut-Médoc, qui classent, on va les prendre dans l'ordre, les Pauillac, les Saint-Julien, les Saint-Estèphe, les Haut-Médoc,
les Margaux.
Voilà. Uniquement ces appellations. Le Pessac étant classé dans une appellation à part, le Sauterne également, et les Saint-Emilion, qui sont sur la rive droite, ont un classement particulier qui les reclasse tous les 10 ans. Voilà, donc, et en 1855, il y a eu un classement qui a été fait et qui a été installé, qui classe tous ces vins en 5 catégories, 1er, 2e, 3e, 4e et 5e fruits classés. Il y en a 5 premiers, il y en avait 4 tout au début, Mouton les a rejoints. Je me tourne vers Patrick, mais je crois que c'est dans les années. Patrick, 73, je veux pas dire de bêtises, qui a été ramené au classement et qui classe ces vins étant, donc on va partir de la gauche du château Latour, du château Lafitte Rothschild, qu'on ne voit plus parce que ça se vend bien, Mouton Rothschild, Margaux et Aubryon pour le dernier, ah oui, qui est une particularité, un petit retour, c'est que c'est le seul aussi vin des Pessac qui est venu se classer, s'intégrer dans le classement des. Voilà, ces vins sont toujours là, sont. Ben depuis qu'ils sont goûtés et depuis la nuit des temps, sont toujours les meilleurs. On peut imaginer qu'il y a des deuxièmes qui mériteraient d'être premiers. Mm-hmm. Et si on fait le classement et qu'on redéguste, si on redéguste les 50 derniers millésimes, ils resteront toujours comme étant les 5 plus grands.
Alors si c'est les 5 plus grands, c'est aussi les 5 plus chers ?
C'est pas automatiquement, parce qu'on va en trouver d'autres. Alors à Bordeaux, il y en a, c'est les 5 plus chers, il y en a quelques-uns qui essaient de rattraper. Après, il y a une sorte de logique qui s'est créée. Ce classement, il a quand même créé des critères de prix, et c'est très difficile. On voit certains seconds qui ont essayé de monter un petit peu. La punition arrive rapidement. Après, il y a une magie, la magie de Mouton Rothschild. Ça reste.
Alors,
quand même...
si je veux mettre une bouteille de Mouton Rothschild aujourd'hui sur ma table, il faut que je compte combien ?
Si c'est bien acheté, si c'est acheté ici, on arrive à en trouver de temps en temps. Parce que c'est vous, hein. Vraiment, je le dis, vous le dites à personne. Allez, on va dire qu'on peut arriver à en trouver entre 3. Commence à être difficile à en trouver en dessous de 400 euros, 400 euros. Et après, ça se situe plus près des 500 euros. Mouton Rothschild reste un vin quand même qui part très cher, un peu au même niveau que les autres. Mais quand même, qui a une aura bien moins importante que Lafitte. Lafitte, alors pour les. C'est la magie en Chine, on va dire en Chine particulièrement, j'y ai pas été, mais on le sait. Voilà, c'est la magie de Lafitte, vous pouvez l'écrire avec 3 T et 12 F, vous en vendrez toujours. On voit bien ceux qui ont des vins en sud-ouest qui portent le nom de Lafitte quelque chose. Bon, vendent leur vin, le Bordeaux, ils sont fans de ça. Et puis, ben, enfin, ça reste là-bas un signe extérieur de richesse, je crois. Enfin, on dit, et c'est vrai, la voiture, c'est important là-bas, mais le grand truc, c'est d'avoir chez soi ou une bouteille de Romane Conti, une bouteille de Lafite, de la boire un peu.
Et en France, on en boit encore de notre vin
Ça ne boit pas beaucoup, quand même. Ouais. Enfin, ouais. Ben, disons que ça reste un objet de spéculation. Quand vous avez, on va dire que le prix de sortie aujourd'hui se situe, parce que c'est des prix qui sont, qu'on peut voir. Hein, c'est, nous, on achète à un prix qui était l'année dernière, on va prendre sur le millésime 2010, on achète la première bouteille de Grand Cru Classé, c'est entre 500, il y a plusieurs tranches, on va dire 600 euros. Prenez un peu de TVA, vous la mettez dessus. Nous, on vend pas très cher parce que l'idée, c'est de faire un produit, on va pas dire d'appel. On en a pas beaucoup.
C'est un produit de prestige quand même pour
ça
vous.
Reste oui, bien sûr. Mais nous, notre métier, on reste quand même, on parle de Claire, on reste quand même, on n'en vend pas des tonnes, mais on essaie quand même de faire venir les gens à ce produit. Le problème, c'est que le Lafite Rothschild qui sort à 600, dans la journée, vous pouvez le vendre 1002. Donc bon, alors, si je le vends à 720, je veux dire, automatiquement, je sais très bien que vous n'allez pas le boire. Et vous allez le vendre à 1002, donc je préfère le vendre moi à 1002. Que,
ben,
voilà,
forcément.
Donc on rentre dans ce truc-là, donc on fait, ça devient.
Ça devient trop spéculatif, c'est trop spéculatif.
Oui, bien évidemment. Pas justifié. Je pense qu'à un moment, le prix, ben, ça devient très compliqué.
Et on ne boit plus avec
tout ça. Non, compliqué.
Et on ne boit plus avec
tout ça. Il faut savoir qu'il y en invite surtout.
C'est dramatique.
Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas trinqué dans cette émission. Prête le verre vide, bon, allez, tant pis. On ne boit plus. Allez.
On va nourrir.
Ben voilà, on va arriver au terme de cette deuxième demi-heure d'émission. Pascal, tout va bien ?
Tout va bien.
On est bien là, les petites asperges avec la mousseline à base de
orange.
Ça, c'est assez terrible avec le petit craquant dessus là
De bacon.
De bacon. Ouais. Alors ça, par contre, on le trouve au midi 5, je le sais.
Oui.
Voilà. Ah, ça, manger ça à midi.
À la carte du midi 5. Eh oui. Et Pascal Perraudeau dit que le pâté de chez Leclerc était très très bon. Et j'ai comme l'impression.
Je vais lui en vendre un petit peu.
Que sur ma gauche. Alors, on marque une petite pause, c'est les infos. Et puis on se retrouve juste après, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on déguste la suite ? Alors, toujours pareil, hein, si vous prenez le train en marche, sachez que l'équipe de Qu'est-ce qu'on déguste aujourd'hui se trouve à la cave de Roques-sur-Garonne, la cave du centre Leclerc. On va dire une hyper cave pour des grands crus, hein, mais il n'y a pas que des grands crus, il y a aussi des vins très abordables. Combien de bouteilles ? 70 000
En stock, disposé, on a un peu plus de 2000 bouteilles là.
Voilà, c'est Bob que vous venez d'entendre, alias Nicolas Bobzinski, qui est le responsable de cette cave, qui nous accueille ici, avec Pascal Perraudeau, qui est le patron du Leclerc. Il y a également Patrick Roquefeuille, qui lui est le caviste, et Delphine Lamartre, que vous n'entendez pas, mais qui sont là, ils sont dans l'ombre,
on
ils nous servent des, servent des verres, ils remplissent les assiettes.
Donc, charme de la cave.
Delphine qui est sommelière ici. Pascal Mouls, je viens de déguster hors antenne un pâté dont Pascal Perraudeau a dit
terrine,
c'est terrible le pâté de Leclerc.
Ah, non.
Alors... oui, à Leclerc je vais bien le revendre, mais alors, il va falloir qu'il mette gros là.
Cette terrine du midi 5.
Faisait,
on l'a au midi 5
non, pas midi 5, comme faisait ma grand-mère. Pareil. Des gros morceaux qui
se
croquent.
Ouais. Ah, c'est bien ça.
Des gros morceaux qui se croquent. Comme faisait ma grand-mère.
Vous m'avez parlé de gorge à un moment, non ?
Gorge de porc, bien sûr.
Voilà.
Le béaba de la terrine.
Ah bon ?
Eh oui.
Ben non, mais...
La gorge, c'est pour le gras.
Cinq morceaux.
Bah, en tout cas, c'est rudement bon. Alors, dans la suite de cette émission, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons découvrir un appareil extraordinaire, puisque c'est un...
Un distributeur
de dégustation.
Un distributeur de grands crus.
Que vous avez ici, Bob. On va parler aussi du fameux vin de Totaven. C'est pas l'homme de Cro-Magnon. Hein,
c'est pas l'homme de Totaven. Non, mais...
il n'a pas 450 000
euros. Voilà. Mais il paraît que c'est un très bon vin, m'a-t-on dit.
Vous direz.
Qu'est-ce qu'il nous reste à écouter un petit peu de jazz.
Écouter un peu de jazz, toujours.
Du côté de chez Georges.
Pianiste catalan.
Et du côté de chez Pascal.
Mais des quelques questions à Delphine, parce que je trouve qu'une caviste sommelière comme ça, c'est assez remarquable. Et je voudrais savoir pourquoi c'est une fille qui est là.
Mais c'est pas tout de suite.
Ça peut être tout de suite.
Parce qu'il y avait une chance sur deux à la naissance, en fait, et il se trouve que c'était pas un garçon, donc du coup, c'est une fille, quoi.
C'est pas tout de suite. Les questions pour Delphine, c'est pour plus tard. Pour l'heure, Bob, j'aimerais que vous nous présentiez, donc justement, ces deux appareils. On en a un derrière nous et un en face de nous, là-bas. Les photos seront sur le site, hein, qu'est-ce-qu'on-déguste.com.
Alors, rapidement, pour expliquer un petit peu, donc, tout à l'heure, on a parlé de ce lieu qui on ne veut pas que ça reste un sanctuaire, on ne veut pas en faire un musée, donc on va en faire un lieu vivant. On ne fait pas ce qu'on fait ce soir tous les jours, mais on organise assez régulièrement. Alors, pas sous forme de club, c'est plutôt, on fait ça pour les conseils d'administration, les comités d'entreprise, gens qui veulent se réunir entre 10 et une quinzaine ou une vingtaine de personnes. On réunit ces gens autour du bar, comme on le fait aujourd'hui, on déguste, donc ça peut être des dégustations à l'aveugle, des thèmes. Donc ça, sur le site internet, très bientôt, vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous inscrire et de faire, ben, suivant les périodes, de proposer, de privatiser ce lieu. Donc il y a des télés, on peut passer des... les documents, les gens viennent, en fait, c'est des soirées autour de l'entreprise et elle privatise ce lieu, elle se l'approprie. Et on essaie, nous, d'être là un peu pour faire le lien entre le vin et de faire une soirée un peu voilà, décomplexée. On n'est pas là pour donner des cours, mais on est là pour se faire plaisir, un peu faire ce qu'on fait aujourd'hui. Quoi.
Et donc, il y a des distributeurs automatiques.
Et voilà, alors depuis 4 mois maintenant, 2 mois, on a la deuxième qui est arrivée. Donc, c'est un système qui s'appelle Enomatic, c'est une société italienne qui propose ça. Alors, ça existe depuis une vingtaine d'années, hein. Ça s'appelle ce qu'on appelait les crus au verre, c'est du vin qui est sous gaz inerte, sous azote. Donc, c'est une bouteille d'azote. Les vins sont installés dedans, donc c'est des vitrines quand même qui sont plutôt cossues, assez jolies à voir, qui s'éclairent. Donc, on a une éteinte, mais une qui se trouve derrière moi. Le vin est présenté, donc, avec un système de piston qui remonte la bouteille, donc un peu de manipulation. La possibilité au client, donc la particularité, c'est qu'elle est quasiment en libre service. Alors nous, on n'est pas un bar ici, hein. on est quand même assez réglementé. On fait de la dégustation, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Même dans les bars.
Pour la santé des hommes.
Même dans cette émission, d'ailleurs.
Voilà. Donc, c'est important, parce que voilà, les gens ne s'entendent pas non plus, on n'est pas là. Donc, on fait payer une somme modique, c'est-à-dire qu'on a un système de cartes à puce. Les gens viennent. On a, depuis des années, un système de cartes qui s'appelle R à la cave, les cartes de fidélité. Nous, on a créé une carte de fidélité qui permet aux gens de recevoir des informations, d'avoir une remise de 10% sur leurs achats de toute l'année.
Et là, ça devient une sorte de carte de crédit. On crédite la carte et on la rentre dans la machine. Et ensuite, eh bien, on appuie, on a trois choix. Petite dégustation, moyenne dégustation ou j'ai soif.
Voilà. Donc, il y a 1,5 centilitres, 3 centilitres ou 4,5. Voilà. Donc, l'idée, c'est de... Bon, le système est simple. On prend le prix de la bouteille qui est en rayon, on le divise, puisqu'on peut mettre aussi, c'est le cas des Magnum, mais quand la bouteille est de 75 centilitres par 75, on le remultiplie ben, par 1,5 ou 3 ou 4 et on a un prix qui est cohérent. On rajoute un petit prix pour avoir quelque chose. Ça commence à marcher, les gens commencent à s'habituer. Donc il faut avoir la petite carte.
Ça nous montre si ça marche.
Voilà, la petite carte. On logote avec un système de GenCode puisqu'on reconnaît nos clients avec un meilleur système de code. On a un petit code à 3 chiffres qui leur permet, bon, c'est pas une carte de crédit, hein, mais du coup elle devient une carte d'argent puisqu'on crédite un peu d'argent dessus.
Et ça marche.
Donc on va
je vais une démonstration, c'est pour ça que je demande si ça marche.
Delphine a sa carte.
Alors, voilà, Delphine.
Alors est-ce que quelqu'un veut s'approcher de Delphine?
Oh ben, c'est tout le monde. Allez, à bientôt.
Au revoir, Bob.
Donc il est parti. Oh, c'est difficile de faire de la radio et
d'expliquer. Ouais, d'expliquer.
Je vais tourner. Je sais pas si j'ai le droit, Aurélien, de faire ça. J'ai le droit, hein. Ouais. Je tourne le doigt, Pascal.
Alors, pendant ce temps-là, moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que Bob est lié au dessin animé
L'éponge
et le Bob, non, pas Bob l'éponge, mais
Bob Razowski.
Bob Razowski de...
Non, de Monster Company.
Ouais, de
j'en ai trois. Il y a le bricoleur, l'éponge et l'autre.
J'ai essayé d'être...
C'était ça. Il est sympa celui-là. Il est très rigolo. C'est très très bon film. Excellent. Donc pour expliquer, vous verrez, j'imagine, il y aura quelques photos et un petit peu. Donc voilà, le système est en train de mettre la carte. Donc imaginons qu'on est crédité de 20. Ça ne fonctionne pas ? Si, ça va fonctionner. Voilà, c'est parti. Donc bien sûr, la bouteille qui est concernée s'illumine et les autres s'éteignent.
Ça demande si on préfère avec du sucre ou.
Pardon ?
Ça demande si on préfère un ciré ou avec du sucre.
Oui, là, vous pouvez, voilà, avec ou décaféiné. Ouais. Mais là, ceux-là, ils ne sont pas décaféinés, la série hein, qu'on a. Donc, je crois qu'on goûte... je crois que c'est Angelus, c'est excellent choix. C'est ce que boit James Bond, donc ça peut être...
C'est pour ça que je l'ai choisi.
Si c'est Daniel Craig, s'il n'y a pas de quoi faire.
Oui, alors voilà. Donc effectivement, elle a appuyé sur le bouton demi-dose et donc j'ai une demi-dose voilà, d'Angélus.
Une dose raisonnable. On estime qu'un 1,5 centilitres, c'est suffisant pour se donner une impression. Voilà. On dit bien que la dégustation se fait dans le palais, qu'une fois qu'on a avalé, ça n'a plus aucun intérêt. C'est ce que disent les gens. Hein. Nous, on ne croit pas. Mais bon, c'est à peu près ça.
Il a choisi l'Angélus parce qu'à cette heure-ci, on est proche de l'heure d'Angélus.
Oui.
Très bon, genre.
Mais j'aimerais que vous m'en parliez quand même de ce vin, s'il vous plaît, Bob.
Alors, Angélus, on est assez fan et on aime beaucoup le propriétaire. Il s'appelle Jean-Hubert Deboire. Donc, on se situe, donc, pour ceux qui connaissent un peu Saint-Émilion, sur la partie, sur la route qui traverse, qui va de Saint-Émilion à Libourne. Et on se situe sur le versant, on va dire, ouest de Saint-Émilion. On a le haut de Saint-Émilion, très connu, on va dire. Se situe de ce côté. Et donc, il y a une petite anecdote qu'il faut voir. On a d'ailleurs des images sur le site de l'Angélus, puisque c'était à l'heure où cette propriété a de nombreuses années, le moment où le soir, des trois des villages qui se situaient près de la vigne, où sonnait le carillon de l'Angélus, à l'endroit stratégique où on entendait de cet endroit les trois carillons des trois villages. Voilà, donc c'est resté un peu là-dedans. Donc c'est un passionné, propriété de famille. Donc là, on rentre dans le classement de Saint-Émilion, qui lui classe les vins en trois catégories. Donc il y a deux premiers grands crus classés, qui sont supérieurs, on les classe A et B. Le premier, c'est Cheval Blanc. Le second, c'est Ozone. Il y en a 11 secondes. Ça change un petit peu. Je ne vais pas m'annoncer dans les trucs parce que ça change tous les 10 ans et ça se bat un petit peu parce qu'on aime plutôt y rester et y rentrer. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est un peu le mercato. Hein. Je crois que pour rentrer, il faut qu'il y en ait qui sortent. Et Angélus reste dans les 11 premiers qui comprend Canon Lagaffelière, ainsi de suite, tous les plus grands Saint-Émilion. Situé sur des vins qui ont un peu suivi la mode des Médocains, mais qui restent encore, sincèrement, bon, à part Cheval et Ozone, là, on sait la magie du prix et du nom, bien évidemment.
C'est quand même 1200 euros la bouteille, un truc comme ça.
Pour
Ozone.
Ah oui, Ozone, oui. C'est le plus, vin aujourd'hui le plus cher, quasiment même plus cher que Petrus en prix de sortie, puisqu'il sera plus de 1000 euros. Bon, mais là, c'est. On en achète. On avait 12 bouteilles, on a eu 6 bouteilles.
Vous
on
mettrait 4 caisses, je
on
vous
On a eu 3 bouteilles et on a une bouteille, on ne faut pas la perdre. Ouais,
de toute façon, tout le monde est bien au courant de la disparition de la couche d'ozone petit à petit.
Très, donc, voilà. L'ozone coûte cher.
Oui. Et le propriétaire, ça ne tient pas une couche.
Ouais, je pense
il est très,
aller.
Il est très brillant. Oui. Dans son verre.
Il y a beaucoup de gens ici qui aiment le vin. Hein. Georges, tu as été négociant du temps où il fallait que tu cotises pour vivre la vie de retraité que tu vis aujourd'hui. Bob, tu es responsable de cette cave. Derrière toi,
il y a de l'état de Pascal,
Pascal Perraudeau, à cette passion du vin depuis l'adolescence, nous dit-il. Enfin, tout le monde aime le vin ici. Pascal, tu aimes le vin. Moi, je l'aime aussi.
Personne n'a touché à sa bouteille d'eau ici, hein, je remarque.
Et alors, j'avais une question qui était très intelligente. Et
pour une fois.
Tu viens de me la souffler. Oui, pour une fois, oui, c'est dommage. Mais attends, elle va revenir. Je suis obligé d'avoir de l'argent si je veux boire du vin.
Non. Ah. Enfin, là, ici, chez nous, oui, quand même. Enfin, un petit peu. Parce que...
un minimum.
Non,
on n'est pas les rois du bénévolat.
Dans la vie, en général, est-ce que je suis obligé de casser ma tirelire à chaque fois que je veux mettre une bonne bouteille? Il y a plein de gens qui écoutent cette émission.
Et qui se disent,
tiens, c'est vrai, ils s'éclatent aujourd'hui, ils sont là, ils boivent des super vins, tout ça. Mais à 5-6 euros, je peux m'éclater à table avec un.
On va prendre juste un exemple des premiers vins que vous avez bu. Après le château de Cazeneuve, 12 euros. 12 euros, ça reste, moi je trouve, très raisonnable pour cette qualité de vin.
Ouais, bonne qualité.
Très bonne qualité. Après, on peut. Voilà. Donc 12 euros. Le Volnais, on rentre sur des petites appellations. Donc on se situe plus près des 25 euros, 25-30 euros. Après, on s'envole un petit peu sur les grands crus, mais on. Ici, hormis la cave, on a quand même une particularité, c'est quand même les foires au vin. Donc, ouais. Il se situe fin septembre, début octobre, un peu plus décalé pour cette année, où c'est, on va dire que la plupart de nos clients font un peu les réserves à ce moment-là et stockent un peu à ce moment-là, avec des trouvailles, enfin, on en parlera un petit peu, mais des choses intéressantes.
Il y a des trouvailles dans les foires au vin.
Il y a encore des trouvailles.
6 et 10 euros, on trouve des trucs très sympas. Hein.
Entre 3-5 ans, on commence. Alors, on peut après aller, pas trop d'intérêt d'aller acheter. Un premier prix en foire au vin, ce qu'on essaie de pas faire d'ailleurs. Mais bon, d'ailleurs, à partir de 3 euros jusqu'à un créneau de 8 euros, on arrive à trouver des choses très très bien. On les a segmentés d'ailleurs, enfin, chez Leclerc, dans une entrée de catalogue qui s'appelle Les Incroyables. Ce sont des vins qui sont mais qui sont représentatives et distribuées par tous les Leclerc de France. Parce que c'était un peu l'idée particulière, c'est que chaque centrale d'achat, il y en a à peu près 16 en France, fait sa foire au vin. Et il n'y avait rien un peu qui nous liait par rapport à une enseigne nationale, comme celle qu'on connaît concurrente, on va dire, on avait quelque chose qui nous définissait, qui nous rapprochait. Ouais. Donc on a créé, et Pascal Perraudeau à son époque, Les Incroyables, qui à peu près une soixantaine de vins, je dis, Patrick, c'est ça ? À peu près une soixantaine de vins aujourd'hui, qu'on appelle Les Incroyables, qui sont...
Incroyables.
Incroyables. C'est le chercheur.
Combien il est le vin que tu mets sur ta table à midi, toi, habituellement, genre ?
Oh, non, à midi, bon, c'est le vin que j'achète sur les foires au vin, c'est entre 3 et 5, 6 euros. Quoi.
Ouais, Pascal ?
Oh, bon, c'est à peu près ça, oui. Et les surprises, enfin, c'est pas midi, c'est plutôt le soir.
Ouais, les surprises, c'est surtout dans les vins où on trouve des bons rapports qui ont été pris, c'est les vins de Sud-Ouest, Vallée du Rhône et Languedoc-Roussillon, par rapport aux deux pôles d'attraction qui sont le Bordelais et la Bourgogne, on arrive à avoir de très très bons vins pour des prix raisonnables dans le sud.
Je fais un petit crochet par chez nous parce que
Ali
Mahmoudi du Château Saint-Louis qui est resté dans l'ombre mais qui est parmi nous aussi ce soir, qui nous a fait déguster un de ses vins blancs,
Chardonnay.
C'est Chardonnay. C'est souvent un Fronton ou un Coteau du Quercy que je mets moi sur ma table hein, au passage. Et j'ai dit c'est souvent ou un Fronton ou un Coteau du Quercy que je mets sur ma table. Je suis désolé, c'est pas tout le temps du Fronton.
Non, mais tu as raison.
C'est pas tout le temps du Château Saint-Louis.
C'est comme ça que tu découvres avec Fronton, c'est pas mal quand
même. Mais en même temps, je trouve que vous commencez un peu à vous la péter les mecs. ça commence à devenir cher les Frontons et les
Coteaux du Quercy. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tu sais, tu peux trouver.
Avant, je buvais un Fronton, un Coteau du Quercy, allez, à 4 euros.
Bon.
Maintenant, tous ceux qui étaient avant à 4 euros, ils sont à 8 ou 9 euros. Combien il est celui qu'on a dit ?
Et celui-là, il est à 5 euros. Mmh. Non seulement il est bon et qui est agréable, en plus, pour ceux qui sont écologiques, il est certifié agriculture biologique. Donc, tu vois, à 5 euros. Maintenant, si les magasins biologiques ils le vendent beaucoup plus cher, c'est pas ma faute.
Ah. Il y a des grosses marges, oui. Enfin, marge intéressante.
Voilà, c'était pour faire un clin d'œil quand même aussi au passage à Ali Mahmoudi. Un petit peu de jazz et on passe à la suite.
Bon, enregistrement public à Bangkok du pianiste catalan.
Et les masseuses thaïlandaises, elles étaient où là ?
Je sais pas, il faudra demander. Je demande de Rabussagé, tiens. Ignazi Terasa, qui est accompagné par justement Pierre Rabussagé à la contrebasse et Istevepi à la batterie. Bon, Ignazi Terasa est aussi, depuis quelques années maintenant, il surveille la classe de jazz à l'école supérieure de musique catalane. Bon, il faut dire qu'il a une grosse sensibilité dans les ballades, une bonne force rythmique dans les tempos vifs et un lyrisme profond. C'est une musique personnelle qui se balade du bobo jazz latin au bossa nova. Et là, nous allons l'écouter avec un blues, c'est Blues for Stephanie, c'est une composition de John Clayton. John Clayton était le contrebassiste de Diana Krall, notamment.
En fait, les gens n'aiment pas le jazz, pas parce que le jazz c'est pas bien, mais à cause de Georges, comment on le présente, quoi.
Alors c'est un enregistrement public, Olivier Ngroum à Bangkok, Ignadi Terrazza au piano, Piero Boussaga à contrebasse et Steve P. Drum. Et là, le morceau c'est Blues for Stefani, une composition de John Clayton, contrebassiste jazz qui a joué avec Monty Alexander, qui a fait du duo avec Ray Brown et qui est actuellement le contrebassiste de Diana Krall.
Allez, on arrive aux dernières mesures de cette émission. Et moi, j'avais envie de consacrer, en fait, un temps, au moins, dans cette émission, au vin de Pascal Perraudeau, puisque
notre hôte
est aussi à son propre domaine. J'imagine que c'est à Totaven, enfin j'en sais rien, moi j'y connais rien. Donc, c'est à Totaven. C'est là où on a trouvé l'homme de Cro-Magnon, un truc dans le genre, non?
C'est ça, Totaven.
L'homme de Totaven, hein, ouais. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il a de, comment il est ce vignoble? Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Est-ce que quelqu'un peut nous le présenter? Peut-être Bob, vous nous le présentez?
Il m'a amené une fois, je l'ai vu. Pas l'homme, hein.
Alors, Bob, parlez-nous.
Il a quelques piliers de vigne dans la différence.
Voilà. Par contre, je voudrais dire que c'est pas juste. Il a un verre
énorme.
Oui,
j'ai un verre immense.
Oui, il a un verre énorme, c'est pas juste.
Voilà, merci. Ça, c'est bien. Alors, il y a des nouveaux verres là. On sort des nouveaux verres pour le coup. Alors, moi, j'en veux bien comme ça. Là. Tiens, hop. Alors, je transvase. Hein.
Tu peux le transvaser.
Alors, j'explique. Je passe d'un petit verre. Un grand
verre. Il nous reste un quart d'heure.
Dans lequel on peut mettre son nez, en fait.
Absolument.
C'est ça qui est intéressant.
Voir la tête.
Alors, le domaine de Totaven, s'il vous plaît. Alors, Totaven ou Vell?
Totavel.
Totavel.
T-A-U-T-A-V-E-L.
C'est où?
Dans Totavel, si on se met dans la Méditerranée, face à dans Perpignan, c'est situé à peu près à 20 km au nord de Perpignan, dans l'appellation Côte du Roussillon Village. Puisqu'il y a plusieurs, villages dans l'appellation Côte du Roussillon Village. Il y a l'Escaerde, la Tour de France, Caramani et un dernier village qui est Totavel. Donc, quand on passe Perpignan, qu'on traverse l'autoroute et qu'on s'en va quand on fait en laissant le Canigou sur la gauche, on continue sur cette vallée. On traverse, si on part à droite, Estagel, le village, ou Vingros, qui est un autre village de l'appellation, pour arriver à Totavel, qui se situe dans une plaine enclavés autour de montagnes qui séparent l'appellation Totavel des Corbières d'un côté et de l'appellation Fitou d'un autre. Et sur l'autre versant, quand on se dirige vers l'Espagne, et vers l'appellation, on va déguster justement un vin après de notre voisin là-bas qui s'appelle Massamiel, donc vers l'appellation Rivesaltes, Mori, et ensuite l'Espagne qui se situe non loin de là.
D'accord. Alors,
Il y a deux vins.
Le terroir.
Alors, le terroir, c'est très rocailleux. Ça se rapproche un peu. Voilà, absolument. C'est argilo-calcaire, mais c'est vraiment du gros galet, de la grosse caillasse. Ça ressemble un peu, pour préciser, un peu au vignoble rhodanien, un peu. Absolument. Voilà, des châteauneufs, des contreforts.
Et les cépages de ça?
Alors, les cépages, il y a deux cuvées, puisqu'il y en a une qui s'appelle, la première qui a été créée, c'était La Différence. Il y a une deuxième qui est venue après sur la propriété qui s'appelle La Racine Carrée de la Différence. C'était les mathématiciens qui ont fait ça, dont le professeur Perraudeau qui est là. Et donc, il y a trois cépages particuliers, qu'on retrouve, puis qui rentrent aussi dans la recette, et c'est presque une obligation, à différentes quantités. Donc, ils sont le Carignan, la Syrah et le Grenache. Donc, on les trouve pour la Racine Carrée.
On a bien la couleur du Grenache.
Voilà, Grenache, ce qu'on appelle le Grenache, est automatiquement, il est noir. Voilà, le Grenache noir, la vraie.
On est presque pour.
L'étymologie, et de la variété du cépage, c'est le Grenache noir. Et on a vu du Grenache gris tout à l'heure sur le blanc de Cazeneuve.
La fabrication, parce qu'il est long, le Bob, là. Il est long sur le coup et le temps tourne.
Il y a deux ans de vieillissement, donc c'est pour ça que c'est long. Mais rapidement, donc, un petit peu de Mourvèdre, qui est un cépage qu'on retrouve dans le Bandol et dans les Côtes de Provence, qui donne ce côté un peu mûr, très racé, très massif et presque, on va dire, giboyeux, assez musclé.
Question, est-ce que c'est un vin marketing ou pas?
Non. Alors, rapidement, juste, puisque je n'étais pas au tout début de l'histoire, c'est un vin qui a été fait. Il y avait une parcelle qui était particulière. Elle est toujours, elle représente 1,4 hectare. Ils se sont rencontrés avec Pascal, ils se connaissaient depuis pas mal de temps. Ils ont décidé de faire un vin, ils l'ont goûté, ils ont essayé de faire quelque chose. Ils voulaient qu'il soit, ils cherchaient un nom, ils voulaient qu'il soit différent. Il est devenu la différence. Voilà, tout simplement. Donc, c'est une particularité, c'est un petit rendement. On est entre 17 et 24 hectolitres à l'hectare. Voilà. des vignes assez particulières, ce qu'on appelle des vignes en gobelet. On n'est pas comme à Bordeaux sur les palis, donc c'est un peu, c'est beaucoup de parcelles par-ci par-là, on va dire, sur des terrasses assez difficiles d'accès, pas de machine pour accéder là-dedans. C'est vraiment
tout à la main.
Tout à la main, impossible. Alors sur certaines parcelles un peu plus loin, il y a de la machine, sur d'autres variétés, mais sur la différence, impossible.
Alors ça, c'est un vin qu'on retrouve évidemment ici à Air-la-Cave.
Bien sûr.
Mais,
qui est vendu en restauration.
Qui est vendu en restauration.
Voilà, dans un grand restaurant. Après, ouais. Ça reste un vin particulier, un vin d'amateur, peu connu pour l'instant, mm-hmm. Ça va le devenir. Mais voilà, donc il y avait un clin d'œil, c'est pour ça qu'on le trouve en bas quand on descend au milieu des plus grands vins du monde.
Au milieu restaurant de la
région. Au milieu restaurant, on a vu dans quelques belles tables de la région, que ce soit aux Brasseries L'Opéra, chez aux loges. De l'Aubergade.
Et alors, il y a un petit logo sur l'étiquette moi, que je trouve plutôt sympa, qui est le égal de différence, le égal barré de.
Voilà,
de
c'est différence. Le logo, voilà, c'est le sigle mathématique de la différence. De la différence. Et voilà. Au-dessus, on a la racine carrée de la différence. Donc, la racine carrée du prix, normalement, quelque chose voilà. Près.
Sur la tête de moi, c'est ça. Remarquable.
C'est très bon. Voilà. Ça demande pratiquement, bon. Bah, je veux dire, 3-4 heures de faut vraiment, ça vient qu'il y a besoin de s'oxygéner et qu'il y a encore tout neuf.
Ouais.
C'est la vinification qui est particulière. Rapidement, le vin est amené de la vendange, ramené sur une table de tri, trié à la main. Au lieu d'aller dans une cuve en béton, en ciment ou en inox, comme une vinification traditionnelle qu'on peut trouver dans la plupart des vignobles, on le met, nous, directement, on l'entonne, on le met dans une barrique qui est neuve, qui est équipée d'un système de trappe. Donc on met des baies dedans, on verse, c'est une grosse confiture. On attaque, c'est-à-dire que le vin commence à faire sa vinification et sa malo. Une fois que les malos, bon après on va rentrer dans les détails, il y a une
qui fait du pas, bah,
voilà très compliqué.
Pas.
On le rebascule dans une
funeuve. Et finalement, on finit par le basculer dans le gosier.
Regarde, regarde.
Ça va du fût au fût.
Bravo, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très bon. Ben voilà, on arrive au bout de cette émission.
Oh, la cuisson du poulet, ça sera reporté la semaine prochaine.
Ben oui,
désolé, je le fais à chaque fois, celle-là.
Désolé.
Oh, chaque fois.
La cuisson du poulet.
Fait, non,
mais
tout.
Pascal, c'est notre teaser. À chaque début d'émission, on dit vous allez entendre la recette de
jamais,
cuisine de Pascal.
Jamais, il me laisse jamais la parole.
Mais oui, mais c'est grâce à lui
mais
que de semaine en semaine, les auditeurs reviennent pour entendre peut-être enfin une fois la recette de cuisine de Pascal.
Elle est l'origine de la peau des fesses.
Un dernier mot, juste, on fera la recette du poulet. On vous invite un jour à Totavel à venir faire une émission chez nous et on aura de quoi cuire un poulet, je crois.
Avec plaisir.
Et avec plaisir. En plus, c'est un pays que j'aime bien là-bas. Et ben voilà, on arrive au bout de cette émission. Merci de nous avoir accueillis.
Merci pour l'accueil.
Merci à vous. Merci infiniment de vous être déplacé.
À Air-la-Cave. Donc, on tape Air-la-Cave dans Google et on devrait arriver sur
le numéro de téléphone,
Si vous venez donc du côté du centre commercial de Roques-sur-Garonne, n'allez pas que chez Ikea, n'allez pas que dans les rayons de Leclerc. Descendez, venez voir cette cave. Allez forcément déjeuner à midi 5.
Est-ce que c'est ouvert le soir, midi 5
et au midi 5, est-ce qu'on...
On a aussi un petit peu de vin. Hein.
C'est ouvert le
c'est ouvert
soir,
le soir midi 5.
C'est ouvert midi et soir, oui. Fermé voilà. Juste le dimanche.
Voilà. Merci à Pascal Mouls pour tout ce qu'on a
Bravo.
Dégusté. Je sais qu'il nous reste un Maury...
Bon, on va le boire, mais
on va le boire, mais ce sera sans vous, monsieur, dame. Merci
bon, très
et
très bientôt.
À bientôt. Au revoir.